Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va à Réu ?
Et bah bienvenue à cette nouvelle réunion de rédaction, Judith et Mathieu.
Salut Antoine.
Salut.
Alors mes petits spécialistes de l'horreur et du catéchisme, si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un nouveau film, L'Exorciste, qui sort. Et oui, L'Exorciste Dévotion, film de David Gordon Green qui avait déjà rebooté, voire massacré, le Halloween de John Carpenter. Et il se lance dans un projet non pas juste de suite, mais carrément de nouvelle trilogie, censée faire suite au chef-d'œuvre matriciel de William Friedkin. Donc forcément c'est l'occasion de revenir sur cette saga très particulière, parce que L'Exorciste est à la fois un film cultissime, mais aussi une tentative de franchise très très chelou et instable, ce qui peut donner, bah, je pense, pas mal d'idées d'articles. Donc bon, déjà, je pense qu'on peut commencer par la question qui nous taraude que très moyennement, c'est comment L'Exorciste Dévotion ? Peut-être Judith pour commencer.
Alors, je vais essayer d'être un peu fair-play, je vais commencer par 2-3 points positifs. voilà. Non, en fait, moi j'en avais entendu des horreurs et au début du film, j'étais plutôt agréablement surprise en me disant que le travail était honnête, il y avait quelques intentions de mise en scène, des efforts de spatialisation dans la maison des personnages principaux pour faire naître du suspense. Il y avait la volonté de reprendre des thèmes importants dans L'Exorciste originel, les violences médicales, ce genre de choses. Bon, c'était intéressant. Puis après, quand on bascule dans la malédiction et le fameux exorcisme, bon, ça se casse complètement la gueule et ça devient malheureusement catastrophique. Ça devient très réac en plus. Hein. Ouais. Voilà, il y a un sous-texte sur le droit à l'avortement qui est quand même assez chaud. Et ça vire dans la bondieuserie la plus stupide, je ouais. pense, bien loin de ce qu'avait voulu faire Friedkin.
Mathieu.
Oui, alors je pense que je suis le plus mesuré de l'équipe sur le sujet. Après, il faut préciser que, Judith, tu parles de t'en as entendu du mal, c'est parce qu'on a été voir le film avant.
Oui, c'est vrai, et c'est vrai de que vous que j'en ai entendu du mal.
Enfin, c'est de Antoine plus précisément. Mais c'est vrai que nous, on y allait, et déjà, contrairement à toi, Antoine, je n'ai rien contre les Halloween de Gordon Green, j'ai même plutôt bien les deux premiers.
Oui, c'est vrai.
Donc, franchement, moi, j'y allais pas tant que ça à reculons. Et on est allé à la première projo, voire la seule, si je dis pas de bêtises.
La première, on en a première.
Il y en avait plusieurs, ok. Bon, on est allé à la première, on a eu aucun retour, donc vraiment... Et comme toi, au début, j'étais plutôt agréablement surpris, je dois l'avouer. J'aime plutôt bien la première partie, je trouve qu'il y a pas mal de trucs assez intéressants. Ouais, comme tu parles des violences médicales et tout, je trouve que le film est très bourrin, mais pas inintéressant de ce point-là. Mmh. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on a redoutées et qui s'avèrent plutôt honnête, comme la photographie un peu qui reprend le côté un peu granuleux mais sans complètement singer non plus le look du film de Friedkin. Il y a quelques bonnes idées, je trouve. Puis vient le premier tiers, la première moitié, je sais pas
la première moitié, ouais, la moitié à peu près,
le moment où le père laisse sa gamine posséder derrière lui, il prend sa voiture et là ça fait tin 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 tin. version 2.0, et là, ça part en fin de service, vas-y que je te fais le petit précis illustré de l'exorciste et vas-y que cette chose que je déteste dans les Lego sequels, bon, on en reparlera, mais cette obsession, enfin comment dire, cette prétention que nous on a mieux compris que tout le monde en fait, ouais, le premier film, totalement, qui est insupportable. Et je trouve dans celui-ci c'est terrible parce que non seulement ils le prétendent, mais en plus ils ont faux sur toute la ligne. Ouais. Autant sur Halloween tu peux leur trouver des bonnes idées, enfin ils arrivent plutôt bien je trouve à prolonger ce que voulait faire Carpenter, autant là c'est catastrophique. Et la partie exorcier je trouve, et en fait elle ne fait que effleurer les quelques bonnes idées du début, totalement, sans jamais les exploiter, et ça devient un peu ridicule à la fin. Dernier petit truc que je sauve, à la toute fin, il y a quelques visions d'horreur un peu, je dirais pas expérimentales, oui, mais un peu plus audacieuses, on va dire, oui, qui prolongent un peu l'idée des visions, comment on dit déjà, qu'il y avait dans le Director's Cut de Friedkin.
Ah oui, enfin les espèces de...
Les images subliminales, voilà.
Les images subliminales, ouais.
Il prend ça et il fait un peu quelque chose avec, que je trouve pas inintéressant, et les images sont pas mauvaises. Mais c'est vraiment quelques secondes à sauver, oui, dans la deuxième partie qui est quand même vraiment lourde, ouais, et parfois très ridicule.
Ouais. Bah oui, de toute façon, je vous suis pas mal. C'est vrai que mine de rien, bon, je suis de loin, je pense, le plus négatif. Enfin, moi, j'ai vraiment détesté le film, je le trouve mais insultant au possible. Et c'est aussi parce que j'adore l'exorciste. Donc j'y allais à la base à reculons, mais comme toi, quand on l'a vu, c'est vrai que moi, la première partie, et notamment la disparition du coup de ces deux jeunes filles qui vont se retrouver toutes les deux possédées et qui donc disparaissent pendant 3 jours, et les parents s'inquiètent, et t'es vraiment du point de vue des parents qui se disent évidemment que le pire a pu arriver à ce moment-là. Je trouve qu'il y a un truc pas inintéressant qui se passe, mais c'était une bonne façon de relancer l'exorciste en faisant un truc un peu différent. Mais ce qui est intéressant dans l'exorciste, c'est évidemment cette déliquescence progressive d'un personnage innocent d'enfant. Et là, effectivement, à partir du moment où le Legacy Call s'insère là-dedans et que du coup, voilà, ils sont obligés de laisser les gamines derrière pour relancer, ramener Chris McNeil, le personnage d'Ellen Burstyn dans le premier Exorciste, qui en plus ne sert à rien.
Ouais. Donc, ah, tu rigoles, elle a la scène la plus nanarde de tout le film quand même. Donc,
C'est ça, quoi. Avec effectivement le remix de Tubular Bells qui, moi, m'a fait hurler de rire parce que ça débarque tellement comme un cheveu sur la soupe. C'est assez insultant. Et du coup, ça abandonne, enfin, ça fait qu'il y a pendant un tiers du film, ils abandonnent la structure de l'exorciste que pourtant ils ont passé le film à essayer de recopier, avec notamment cette intro à Haïti qui est pas nulle, tu vois, mais qui essaie vraiment de recopier l'intro en Irak du premier exorciste. Et je pense qu'on en reparlera, mais pour moi c'est un contresens complet de ce à quoi sert cette intro dans l'exorciste. Et c'est ça le problème, voilà, c'est qu'il suit, il te dit effectivement sous le prétexte du on a mieux compris que vous, on refait l'original, sauf qu'en fait ils peuvent pas parce qu'il y a quand même ce legacy call qui s'insère au milieu. Et ça fait juste que le truc se casse la gueule devant toi, et c'est, en plus d'être effectivement assez réac sur les bords...
C'est d'autant plus dommage que je trouve qu'à l'origine, il y a un contre-pied qui est pris avec le premier, qui n'est pas inintéressant. C'est que le premier, il est vraiment vu comme un film d'enquête. Hein. Friedkin et Blatty l'ont toujours considéré comme tel. Et je trouve que le début de Dévotion se recentre vraiment exclusivement sur la famille et sur le père, qui est un point de vue que finalement on a rarement vraiment eu dans les suites, ou même, on a beaucoup eu par la suite dans d'autres films d'exorcistes qui s'inspiraient de l'exorciste, mais qu'on n'a pas trop eu dans toutes les suites qui faisaient un peu leur truc à la sauce, et qui elles aussi souvent, notamment dans le cas du 3, reprenaient cette idée d'enquête, etc. Et je me suis dit, ah bah en vrai c'est pas inintéressant qu'il se refocalise sur la famille, le rapport entre la fille et le père, etc. Et il vient tout faire voler en éclats à cette fameuse moitié qui nous a tous déçus, quoi.
Bah, notamment avec en plus cet autre problème qui est que le film voudrait créer une ambiguïté un peu autre, notamment parce qu'il y a la présence de deux enfants et plus seulement d'une, avec, mais en même temps il te construit le truc tellement de manière évidente, avec d'un côté du coup cette gamine qui vit seule avec son père athée qui a perdu la foi parce qu'il a perdu sa femme machin et tout, c'est terrible, c'est tragique, et de l'autre les
c'est
deux parents...
C'est un peu comme Signe, je fais le Geoffrey.
Et de l'autre, c'est ces deux parents qui, eux, évidemment, sont très croyants. Et puis, quand ça commence à partir en sucette, tu vois bien que, bon, bah, forcément, ça se craquelle un petit peu. Et donc, tu sais pertinemment où le film va avec ça, en fait. Et je trouve ça assez terrible.
Mais justement, pour rebondir un peu sur ce que tu dis sur le fait qu'on voit très bien où le film va, même la première partie que j'ai tendance un peu à défendre comme Mathieu, malgré tout, ça reste vraiment, enfin parce que donc c'est un film Blumhouse et ça ressemble vraiment à un template Blumhouse hyper classique où on se dit à la fois genre oui, c'est intéressant, ok, il tente des trucs, mais ça reste très impersonnel par rapport à un travail de Friedkin. Pourtant, moi, je suis pas la plus grande fan de l'exorciste original qui existe, mais...
Quoi ?
Non, oui, désolé.
Il est là, le
oui, oui, il est là, de toute manière, donc ça pouvait pas être moi, mais voilà, je trouve que finalement, ça, c'est à quelque chose d'honnête, on va dire, mais de très, très impersonnel. Et à partir de là, en fait, effectivement, dès que le film tente de pousser un petit peu les curseurs de ce qu'il entreprend, bah, en fait, ça se casse la gueule, parce qu'on sent qu'il y a pas de colonne vertébrale derrière ça, quoi.
En fait, il y a une sorte de fausse ambiguïté, c'est-à-dire que le film passe son temps à essayer de te raconter une ambiguïté qu'il grille à chaque seconde. C'est-à-dire que Friedkin avait mis un point d'honneur à ce que rien ne soit vraiment explicité dans ses intentions dans le premier, et d'ailleurs c'est la source de nombreux débats sur le director's cut, on en reviendra peut-être, mais dans le... Ouais, dans Dévotion, il met plein de choses qui veut ambiguë, notamment l'autre couple de parents qui eux sont très croyants, etc. Idée pas mauvaise, sauf qu'il en fait très clairement des antagonistes, des méchants. Et du coup... ça marche plus, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est manichéen à fond. Pareil pour les subtiles références au fait que les filles partent 3 jours, et bon, déjà voilà, il faut que dans une scène il y a un personnage qui verbalise le fait que ce soit un chiffre important pour la religion catholique. Enfin, excuse-moi, on n'est pas stupide pas à ce point là quoi, tu vois. Franchement, dans un autre film Blumhouse, comme tu dis, ça serait passé, parce que bon, bah, des fois, c'est des films qui sont très bêtes, et vu que c'est des films concept qui ont tendance à vraiment expliciter toujours le fameux concept. Autant dans un film, voilà, qui prétend revenir à la sève d'un quand même monument d'ambiguïté horrifique, ça la fout mal, ça la fout vraiment mal.
Oui, parce que qu'on aime ou pas les Halloween de Gordon Green, je pense que dans tous les cas, il y avait matière à s'approprier les codes du slasher qui étaient pour beaucoup déjà très très éculés quand même. Enfin, il y avait déjà tellement de trucs qui avaient été dévitalisés que c'était intéressant. Qu'on aime ou pas les films, moi tu vois, j'apprécie très vaguement le premier Halloween de Gordon Green, et encore. Mais tu sens qu'il y a tellement cette envie de réinjecter quelque chose dans ces codes-là, sauf que moi c'est un peu le problème que j'ai en fait, c'est finalement l'exorciste, ça peut pas être juste des codes, c'est pas un programme en fait, tu vois. Et pour moi c'est tout le problème, c'est que l'exorciste Dévotion c'est un programme, et qui est autant le programme du Legacy Call, donc qui déjà est un truc qui parasite le film en cours de route, mais le programme juste du on fait un film d'exorcisme, cette espèce de gradation de crescendo qui est vers lequel t'es censé arriver, et pour en plus derrière effectivement comme tu dis enlever toute cette ambiguïté. Ce qui marche chez Friedkin, ce qui rend le film puissant, c'est que tu avais dans cette envie d'aborder cette imagerie aussi de la religion, c'était pas tellement pour la mettre en valeur mais pour poser justement, c'est quoi cette valeur-là en fait, et notamment pour les Américains, où évidemment c'est quelque chose de culturel, de très important. C'est ça qui a fait aussi que l'exorciste a autant plu à l'époque, choqué aussi à l'époque, c'est que tu prends quelque chose d'aussi ancré dans le quotidien et tu le pervertis, tu le désacralises totalement, et tu te poses la question de est-ce que finalement ça n'est pas sans valeur en fait, même face au nihilisme de ce monde-là. Et lui, à l'inverse, il t'a ce truc d'arrivée progressive de l'espoir, avec en plus cette idée horrible dans le film que toutes les formes de christianisme peuvent se retrouver finalement. Il y a plusieurs mouvements, mais à la fin tout le monde se retrouve vraiment en silence dans une église pour se regrouper comme les Avengers. Il fait mais qu'est-ce qui se passe,
il marche au ralenti, c'est incroyable.
C'est
cette scène
horrible.
Non, mais ça c'est une des bonnes idées effleurées par un film qui en fait n'importe quoi. Je trouve ça intéressant, un moment effleure un début de relation conflictuelle entre une certaine pratique du catholicisme que le personnage a choisi et une critique beaucoup plus traditionnelle qui est plutôt celle des parents méchants là justement, et on s'attend à une sorte de rupture culturelle et politique entre les deux, qui n'arrive jamais.
C'est ça.
C'est terrible.
Pour qu'en plus, au final, même si, bon, il te met un vague twist là-dessus, mais t'as cette espèce de truc où c'est le prêtre catholique qui veut pas forcément trop intervenir, et en cours de route, quand ça se passe mal, c'est lui qui débarque en mode Deus Ex Machina. Au final, c'est quand même les catholiques qui vont sauver le monde. Tu fais bon, bah, ok, très bien. Alors, il met un vague twist là-dessus pour rendre ça un poil plus subtil, je suppose, mais c'est tellement.
On va passer aux choses sérieuses, quoi.
Ouais, mais c'est ça, quoi.
Salut, c'est l'équipe d'Écran Large qui interrompt le podcast d'Écran Large. Si vous l'aimez, ce podcast, vous pouvez nous aider à le pérenniser et à l'améliorer. On a plein d'idées et de sujets dont on aimerait parler, pourquoi pas avec des invités. Tout ça, ça réclame des ressources qui nous serviront à mieux nous organiser et à nous équiper. C'est pour cette raison qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour nous soutenir, tapez Ulule Écran Large sur Google et participez à l'avenir de ce podcast.
La partie sur Legacy Call, d'ailleurs, on en avait reparlé il y a quelques jours, et je trouve d'autant plus absurde dans ce cas-là, contrairement à celui de l'exorciste, de Halloween, que toutes les suites d'exorcistes qu'il prétend ignorer sont des Legacy Call avant l'heure, before it was cool. Enfin, c'est-à-dire que l'exorciste 2 est une suite directe, l'exorciste 3 s'appelle l'exorciste la suite et est basé sur le fait qu'on va pas prendre en compte le 2 parce que tout le monde l'a détesté. La série fait exactement la même chose en reprenant, en mettant based upon William Peter Blatty. Donc, à l'exception peut-être du remake, et encore celui-ci aussi prend en compte uniquement le premier film, toutes les suites de l'exorciste font la même chose, c'est-à-dire partir du principe qu'on va étendre le film de Friedkin. Étendre et non pas pomper, enfin refaire.
Ouais, et
à la
même.
Blumhouse.
Surtout que même finalement, les rares idées que tu pourrais juger un tant soit peu originales, enfin, sont piquées ailleurs, quoi. Enfin, l'idée que les deux filles sont du coup connectées par la possession, bah, t'as ça dans l'Exorciste 2, en fait. Donc, on y reviendra. Mais tu vois, moi, c'est une des idées que je trouve assez merveilleuse dans l'Exorciste 2, cette connexion qui se fait par surimpression, quand les personnages font une espèce d'hypnose en groupe. Et c'est le genre d'idée où tu vois, lui il te dit je réinvente la roue, c'est bon, on fait des trucs un peu différents avec l'exorciste, et en fait tu dis bah non, en fait c'était là dans les suites que vous avez tous jugé merdique à l'époque. Et au final il y a beaucoup plus d'idées dans ces films là que dans Dévotion. Enfin, pour moi c'est vraiment le pire du pire de ce qui pouvait arriver à la saga.
Et donc on part sur une trilogie, voilà, ça va être bien.
Mais c'est ça, quoi. Surtout que oui, là c'est gros enjeu pour eux parce qu'ils ont quand même investi Blumhouse 400 millions dans juste l'achat des droits plus les 30 millions de budget pour faire le film, qui pour l'instant ne démarre pas très bien, puisqu'il y a Taylor Swift en face. Donc,
entre autres, une presse assassine. Et
oui. Ça me rassure d'ailleurs. Je me suis dit pour une fois, tiens, c'est même les Américains, sur le côté réac que tu évoquais, il y a quand même vraiment ce côté, la question du droit à l'avortement qui est vraiment questionnée par le film de manière vraiment bizarre. Et,
bah, qui a un discours hyper culpabilisateur.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et qui en même temps, en plus, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le cinéma américain depuis quelques années, et c'est particulièrement chelou. Mais j'étais même content de voir que même les Américains réagissaient à ça et que c'était vraiment parmi les éléments de critique qui ressortaient sur le film.
De toute façon, ils ont annoncé une trilogie avec une date de sortie de la suite et tout. À mon avis, les chiffres à l'heure actuelle sont en deçà largement de ce qu'ils avaient espéré. Donc est-ce qu'ils vont réengager Gordon Green par exemple ? Ah, on n'est pas sûr. Voilà, et comme tu disais, Blumhouse, la formule, pour moi, en fait, Halloween, ça a été un succès de malade mental quand même. Enfin, c'est-à-dire que c'était 10 millions de dollars de budget, et je crois qu'ils ont fait 250 millions avec. Enfin, ils ont dû faire une marge stratosphérique. Et ils se sont dit, la formule, elle est là. Enfin, là, ils ont vraiment repris la formule Legacy Call, entre guillemets, et ils l'ont appliquée telle quelle à l'Exorciste, sauf que ça marche beaucoup moins bien, forcément. Et il y a vraiment, comme tu dis, ce template, quoi.
Moi, tu vois, je me pose déjà la question, c'est. Pourquoi l'exorciste ? Enfin, ça reflète quand même à quel point.
Le droit était dispo, écoute.
Non, mais tu vois, ça reflète à quel point il y a quand même un vrai problème sur la question de on reboot des franchises sans même trop se poser la question. C'est-à-dire, tu te poses la question de. A priori, Blumhouse vise plutôt un public assez jeune quand même. Enfin, l'exorciste est sorti en 73. C'est un film culte, mais est-ce que ça l'est encore autant, tu vois, pour une génération plus jeune ? Et. Pour un film qui, justement, n'a pas de valeur de franchise. Enfin, on va parler de tous les exorcistes, mais pour beaucoup de gens, il y a l'exorciste 1 et c'est à peu près tout, en fait. Donc, je vois pas tellement l'intérêt de se dire c'est la franchise à rebooter. Halloween, ça faisait sens. Enfin, c'est une saga qui a été un peu malmenée. Le premier film est culte et il y a matière à vraiment s'amuser avec le côté slasher. C'est logique de rebooter, enfin, de refaire des suites d'Halloween, tu vois, mais. L'exorciste de base, je me disais vraiment, c'est une sale idée, et encore plus si tu veux vraiment estimer être le légataire absolu de Friedkin, tu dis bah bon courage, vas-y.
Bah oui, parce que Halloween, ça s'y prête davantage, même si je suis la première à en avoir marre. Quand même, le concept du slasher avec cette espèce d'entité maléfique qui revient à chaque fois, toujours égale à elle-même et qui est indéboulonnable, c'est quelque chose quand même que tu peux resservir un petit peu à toutes les sauces. Bon, même si encore une fois, ce serait bien de s'arrêter quand même. Je veux dire, l'exorciste au départ, une réflexion voilà, sur la religion, qui est une enquête, qui est voilà, plein de subtilités, c'est quelque chose que tu peux pas étirer indéfiniment sans faire de la merde. Quoi. Donc, je trouve ça effectivement très bizarre qu'ils aient envisagé l'exorciste comme un truc déclinable à l'infini, comme Halloween.
Oui, alors qu'en soi, c'est pour moi l'exact inverse du slasher à la Halloween, c'est-à-dire que tu le fais une fois et ensuite ça marche pas. Et les autres films d'exorcisme qu'il y avait par la suite l'ont prouvé.
Ouais. Oui, mais ouais. C'est ce que je disais, il n'y a pas de programme en fait. Tu peux pas estimer qu'il y a un programme et c'est peut-être ce qui va nous amener à transiter de toute façon vers. le premier film, Vers l'exorciste de William Friedkin, donc sorti en 1973 et adapté du livre de William Peter Blatty, qui était déjà à l'époque un méga méga succès littéraire. Et donc forcément, bah, beaucoup de gens s'étaient jetés sur les droits et c'est Warner qui les avait chopés à l'époque. Et avant même qu'on parle un peu du film, de son aura et de tout ce qui l'entoure encore aujourd'hui, enfin, faut quand même rappeler en fait que l'exorciste est, si on le considère comme un film d'horreur, ce qui est déjà effectivement, comme tu le disais, pas vraiment comme ça que le Friedkin le perçoit, mais en le considérant comme un film d'horreur, c'est le plus grand carton de l'histoire d'un film d'horreur dans l'histoire du cinéma. En fait, c'est encore aujourd'hui le 9e plus gros succès du box-office américain, si tu ajustes à l'inflation, puisque ça a rapporté à l'époque 233 millions de dollars au box-office en 73, mais ce qui équivaut maintenant à plus d'un milliard, en fait.
Ouais, je crois que même si tu n'ajustes pas à l'inflation et si tu considères que c'est un film d'horreur, le premier film R d'horreur qui l'a détrôné sans l'inflation, hein, c'est ça, de 2017.
Ah ouais.
Donc okay. Il est resté des dizaines d'années sur le trône, quoi.
Ouais, c'est ça. Et il est quand même entouré par des trucs comme Docteur Jivago qui est à la 8e place et Blanche-Neige et les 7 nains qui est à la 10e. Mais ça, c'est donc, déjà des films très très différents. Et tu vois, au-dessus, t'as le premier Star Wars et Autant d'emporte le vent à la première place. Mais il est encore aujourd'hui dans ce top 10 là. Et a priori, il y a peu de chances que ça bouge. Donc c'est aussi le reflet d'à quel point l'exorciste a été plus qu'un simple succès, ça a été un véritable phénomène, alors qu'il avait amené plein de trucs, hein. Il y avait évidemment ceux qui tombaient dans les pommes pendant le film, ça, les gens attendaient des heures et des heures pour le voir, ils faisaient la queue comme des malades, et ça a posé évidemment cette question-là de pourquoi ce truc-là est devenu un tel phénomène à la sortie. Et moi, c'est un peu ce qui m'intéresse, tu vois, c'est vraiment ce, à la fois déjà commencer par ce contexte-là. Alors déjà peut-être rappeler vite fait quand même les faits. Donc Regan McNeil, jeune fille qui vit avec sa mère Chris McNeil à Georgetown, se fait petit à petit posséder par le démon Pazuzu et le père Karras, qui est en pleine crise de foi, est appelé par cette mère de famille esselée pour qu'il fasse quelque chose pour l'aider, et lui-même trouve l'aide du père Merrin, qui est joué par Max von Sydow, pour exorciser cette pauvre petite fille. Et oui, je parlais du coup de cette aura du film, mais je pense qu'aussi, il faut vraiment estimer à quel point l'exorciste arrivait dans un contexte absolument parfait pour lui, mais surtout à quel point il reflète peut-être le trauma entier de toute une génération, parce que non seulement t'avais la place du cinéma d'horreur à l'époque, qui était quand même dans une certaine stagnation, alors que pourtant on avait eu la fin du Code Ace, qui permettait a priori aux cinéastes de vraiment un peu s'éclater, de faire un peu ce qu'ils voulaient, mais en fait il y avait un peu une déconnexion aussi d'une forme de réalité sociale, en fait. T'étais dans un truc, tu restais dans des maisons hantées avec des nobles, avec un truc assez distancé finalement des réalités sociales de l'époque, et surtout par rapport à la réalité de l'après-guerre aussi, qui méritait quand même d'être un peu convoqué. Et en même temps, c'est aussi dans cette période-là, dans les années 70, que t'as une émergence quand même dans la culture américaine d'une forme d'occulte, alors qu'il sans doute le mieux représenté par Sympathy for the Devil à ce moment-là, et qui s'accorde à plusieurs choses, et notamment évidemment la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une horreur qui se révèle au public par des images, par la télévision, par les journaux, et que là, tu peux plus esquiver, en fait, et qui pose à l'Amérique aussi la question de son bien fondé, de sa place dans ce monde-là. Est-ce que finalement, ce n'est pas nous les méchants, tu vois? Donc il y a un peu ce truc-là aussi qui interrogeait l'émergence de cette contre-culture-là, en même temps qu'un mouvement un peu paranoïaque de se dire « mais si c'est nous les méchants, ça veut dire que le mal est partout, et que ce mal-là, il peut très bien être ton voisin, ton amant, ton enfant ». Et ce qui, en fait, a fait aussi que c'est pour ça que le bouquin de Peter Blatty, je pense à un moment où les États-Unis étaient en pleine, eux-mêmes, crise de foi identitaire et culturelle, a amené ce truc-là où, comme le livre parle de crise de foi, qui était aussi celle de cet auteur-là, donc lui qui s'estime vraiment catholique pur et dur, mais qui a vécu aussi des choses difficiles, donc c'est pour ça qu'il avait écrit ce livre-là, avait ce besoin-là d'exorciser ça, sans mauvais jeu de mots, et donc d'en arriver plus tard au film qu'on connaît.
Et c'est fascinant de voir comme ce film et ce livre, du coup, viennent soigner, on va dire, une crise de foi en parlant de l'existence du diable et pas en parlant de l'existence de Dieu, tu vois, parce que finalement, il est très très peu question de Dieu en lui-même, il n'est pas représenté, le diable est vraiment très présent et incarné et se manifeste sous plein de formes dans le film, et alors que Dieu, bon, bah, c'est vraiment juste, c'est quelque chose qui se dessine vraiment en négatif du diable, on va dire.
Ouais, c'est ça, t'as vraiment une vision de la foi comme la preuve qu'il existe, parce qu'il existe des choses mauvaises.
Oui.
Ça, c'est qui est une vision très pessimiste de la religion, finalement, mais qui, comme tu dis, correspond plutôt bien à l'époque. C'est assez fascinant de se dire qu'il y a eu ce phénomène-là en 73, et l'année d'après, en 74, c'était un massacre à la tronçonneuse. Ce sont quand même deux films qui racontent l'un que la menace finalement elle vient peut-être de l'intérieur, et deux, que non seulement la menace vient de l'intérieur, mais qu'en plus elle vient des Américains eux-mêmes. Et c'est une sorte de diptyque comme ça qui met les, enfin qui est une sorte de remise en question fondamentale du bien fondé de la culture américaine. Ouais. Toby Hopper étant lui-même un hippie, hein, donc c'est ouais. plutôt logique, contrairement à William Friedkin.
Bah, y a ce truc moi qui me plaît beaucoup effectivement, de, en fait c'est plus, tu sens dans l'Exorciste ce truc un peu clair de l'enfer existe, c'est un fait, enfin le film te le donne comme un, comme une sorte de fait, mais derrière effectivement la croyance en Dieu, ça t'appartient ou pas en fait, mais c'est plus tu as le fait que l'enfer existe, après le paradis c'est toi qui vois, et c'est toi qui vois s'il y a effectivement le, donc l'horreur est toujours là, mais c'est à toi de voir s'il y a le contrepoint pour équilibrer les forces en fait.
Oui,
c'est...
tu vas en chier quoi qu'il arrive. Après, à toi de voir s'il y a une lumière au bout du tunnel ou pas.
D'autant que le personnage de Karras, qui donc lui, le personnage qui a sa crise de foi, on s'attend au début du récit à ce qu'il trouve Dieu à l'issue du film, ce serait l'issue logique du long métrage, et il trouve le diable littéralement, enfin, c'est-à-dire qu'il rentre dans lui et se suicide quoi, c'est waouh.
Oui, sachant que le suicide du coup dans la religion catholique ça mène à l'enfer a priori, et voilà, alors du coup c'est un peu ambivalent cette scène, est-ce que ce suicide, est-ce que c'est un acte de protection justement de foi quelque part, ou est-ce que c'est un vrai suicide, enfin c'est ambivalent, du coup c'est vrai que la fin du père Karras elle peut être complètement tragique ou belle ou les deux, mais
on rapproche le côté un peu agnostique de Friedkin, un peu contrairement à Blatty qui lui je crois est un peu plus c'est pas qu'il prend pas plus au sérieux la religion catholique, mais qui est un peu plus fervent défenseur de la foi, etc. Là on a vraiment cette idée, c'est très agnostique comme idée je trouve.
Après moi c'est aussi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on pourrait considérer déjà l'exorciste comme une bondieuserie telle qu'on en voit maintenant pas mal au cinéma, mais je pense que ça peut pas être considéré comme tel, non seulement par Friedkin lui-même en tant qu'agnostique comme tu le dis, mais aussi parce que Blatty lui se projetait vraiment dans le personnage de Karras, puisque lui-même avait perdu sa mère, comme c'est le cas du personnage de Karras dans le film, et que c'est vraiment ça, lui, qui lui a provoqué un moment de crise existentielle et de questionnement sur sa foi. Et c'est pour ça qu'il a écrit L'Exorciste. Pour lui, c'était un livre, il le décrit comme une forme d'aide. Si ça pouvait aider les gens dans leur foi, quelle qu'elle soit, en fait, à ce que ça ressorte. Et ça, Friedkin, je pense que mine de rien, c'est un truc qu'il a extrêmement bien compris, parce que le fait que le film s'ouvre non pas sur... une symbolique catholique, mais sur le champ du muezzin en Irak, ça reflète bien l'idée finalement que t'as l'envie quand même de jouer avec une imagerie beaucoup plus vaste de la religion et de la foi, qui fait que ça évite le côté bondieuserie chrétienne un peu puante sur les bords avec des signes de croix dans tous les sens, qui serait vite agaçant.
Mais d'ailleurs, le film repose pas du tout là-dessus, enfin contrairement à tous les films qui lui ont fait référence depuis, enfin pas tous, mais beaucoup, comme ne serait-ce que L'Exorciste du Vatican dernièrement. C'est pas.
Oh, t'as choisi un exemple.
Ah bah oui. Non, on pourrait aussi parler de La Proie du Diable par exemple.
Ah oui, oui, oui. Dans la catégorie réac aussi, qui se place bien.
Absolument, oui. Où là, on sent vraiment que les questions religieuses et les questions de foi s'incarnent vraiment dans le matériel et dans le décorum et dans la représentation justement des crucifix à outrance et des soutanes et de l'eau bénite dans tous les sens, alors que Friedkin justement est vraiment dans une démarche de, comment dire, décorréler le sentiment religieux justement du matériel et de ce genre d'objet, et c'est ça qui est hyper rafraîchissant entre guillemets, le film est pas rafraîchissant mais voilà, et on va dire
à l'eau bénite,
voilà.
À un moment les personnages sont très rafraîchis dans la chambre.
C'est vrai.
Oh oui.
Mais oui, du coup cette espèce de volonté de dépeindre un grand combat, on va dire, du bien contre le mal, quelque part, ce qui est un petit peu parfois ce que essaye de dire Dévotion, mais le dit extrêmement mal, et voilà, pour en plus cacher un discours réac, mais bref, on va pas revenir dessus.
Mais en même temps, tu vois, déjà, l'ambiguïté qu'on évoque là prouve aussi à quel point ce qui aurait pu être considéré comme un bête film de genre, voire de série B, en fait, au moment où il y avait le projet d'adaptation de L'Exorciste, a fait aussi que le film était finalement beaucoup plus difficile à faire qu'il n'y paraît, puisque du coup Peter Blatty était lui-même très investi dans la production, il avait vraiment un droit de regard sur qui allait faire le film, et ça a pas mal tourné, hein, puisque du coup il y a autant Stanley Kubrick que Arthur Penn, John Cassavetes ou même John Boorman, donc il reviendra plus tard, qui ont été approchés pour le film, mais finalement William Peter Blatty, c'est en voyant French Connection et en voyant le style très brut et documentaire de Friedkin, il s'est dit, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire pour L'Exorciste. Et donc, il a envoyé une copie du bouquin à Friedkin en lui disant « Hey, tu veux pas faire le film ?» Et Friedkin l'a lu, il lui a dit direct « Oh ouais, trop ouais, let's go !» Et après, à partir de là, histoire d'amour. Et enfin, même s'il y a eu Friedkin étant Friedkin, ça ne s'est évidemment pas passé exactement comme prévu.
Oh non.
Mais mine de rien, je pense que même Friedkin l'admet aujourd'hui que... Il présente pas mal L'Exorciste justement en tant qu'agnostique.
Il l'admet comme... pas aujourd'hui parce qu'il est mort.
Oui, c'est... Oh, Judith. Mais il avait beaucoup parlé de d'à quel point lui-même sentait qu'il y avait une sorte de, bon, je pense que c'est du storytelling, mais une sorte de force externe qui justement l'a amené à faire ce film-là et qui a amené aussi à ce que le film se passe comme il s'est passé, avec une sorte de miracle qui s'est quand même déroulé du début à la fin. Alors je pense que l'un des premiers trucs sur lesquels on peut revenir, c'est le casting, parce que c'est quand même aussi un des trucs qui fait que L'Exorciste fonctionne aussi bien maintenant. Bon, ouais. Déjà, trouver Linda Blair, donc la jeune Regan McNeil.
L'une des raisons aussi pour lesquelles Friedkin s'est autant clashé avec le studio, avec Warner, qui lui voulait... un casting prestigieux, logique.
Oui, oui, oui.
Et Friedkin, c'est lui qui a insisté pour Alan Burstyn, pour surtout pour, bon, on va en reparler, mais le casting de Jason Miller qui est fascinant. Ouais. Et ouais, ce genre de truc. Ouais.
Bah, tu peux peut-être revenir dessus parce que c'est assez passionnant l'histoire de Jason Miller.
Justement. Ouais, ouais. Bah, en fait, ils avaient casté un tout autre acteur, Stacy Keach, qui avait déjà ses contrats signés, etc. Et Friedkin en est venu à rencontrer Karras, qui lui a pas fait d'ailleurs une très forte impression à la première rencontre. Tout ça, il le raconte dans son...
Jason Miller,
pardon. Oula. La fiction et le réel s'entremêlent.
Ouais, non, mais tout ça, il le raconte dans son autobiographie, Friedkin Connection, passionnante par ailleurs, et riche en anecdotes diverses. fidèle à Friedkin lui-même, qui est un personnage haut en couleur. Bref, oui, il l'a rencontré, il lui fait pas forte impression. Et finalement, en fait, Miller finit par lire le scénario, le bouquin de Blatty, et lui appelle Friedkin et lui dit « Karras, c'est moi ». Parce que lui-même a été dans une école pour devenir prêtre jésuite, enfin du moins il a participé, il était dans ce milieu-là. Lui-même a eu une crise de foi, lui-même est parti. Bref, il se reconnaît à fond dans le personnage et il l'exige de Friedkin, vraiment il l'exige. Friedkin donne un peu, enfin il reconstitue un peu la discussion qu'ils ont eue, et c'est vraiment... mais il est déjà casté, et lui il dit... Non mais je veux le faire, pour tenir tête autant à Friedkin à l'époque, faut quand même en avoir, quoi. Et finalement, un peu étonné par son audace et aussi le respectant en tant que acteur, puisqu'il l'a vu dans une pièce à l'époque.
Qu'il avait lui-même écrit ouais. sur ces sujets-là. Justement.
Voilà. Il lui accorde un essai avec Ellen Burstyn, donc qui vient de caster. Et au nez à la barbe de Warner, qui le prend complètement pour un fou de passer une audition pour un mec pour lequel ils ont déjà le rôle, alors qu'ils galèrent déjà pour tous les autres personnages. Et en fait, Friedkin est hyper convaincu par Jason Miller, et donc il remercie Keach, bon, qui était payé, hein, bien sûr.
Oui, il a eu tout son cachet.
Voilà, bien sûr. Mais donc encore un énorme problème qu'il y a eu entre le studio et Friedkin. Mais dans ce cas-ci, ça sert vraiment le film parce que le regard de Miller est quand même assez...
Il est parfait.
Il est vraiment incroyable. Mm. C'est vraiment... On a beaucoup parlé de la performance de Linda Blair, qui est à juste titre impressionnante pour une gamine. Et d'ailleurs, tout le monde doutait à l'époque de pouvoir monter un film pareil sur la performance d'une gamine de 12 ans. Ouais. Mike Nichols l'a refusé pour cette raison. Les studios et eux aussi étaient un peu... Ils marchaient sur des œufs, quoi. Hein. C'était un peu compliqué.
Bah, surtout que ça nécessitait forcément de faire des scènes très difficiles avec une enfant qui ne comprenait pas forcément. Et Linda Blair l'a dit, hein, d'ailleurs. Hein, tu vois la scène, évidemment, la plus choquante du film avec le crucifix, enfin la masturbation par crucifix. Masturbation sanglante par crucifix.
Sachant que dans le bouquin, elle atteint l'orgasme, d'ailleurs, mais ils l'ont coupé du film en se disant que ça va être difficile à faire jouer par une gamine.
Et là-dessus, pour le coup, bon, Friedkin n'est pas le meilleur des êtres humains, le mec le plus compatissant, mais il avait su vraiment créer une relation de confiance avec Linda Blair et notamment vraiment un peu lui garder dans le flou les trucs qu'elle ne pouvait pas forcément comprendre en tant qu'enfant et un peu jouer de ça, quoi, pour s'assurer que ça la traumatise pas non plus, l'expérience du film. Mais
après l'audition de Linda Blair, qui est assez connue et qui est racontée aussi par Friedkin dans son bouquin, trahit une forme de maturité de la part de l'actrice qui est quand même assez impressionnante et que lui a repéré tout de suite. C'est-à-dire que bon, ils ont casté un nombre de gamines incalculables pendant une longue période, évidemment. Et c'est la mère de Linda Blair qui est venue sans rendez-vous au casting pour présenter sa fille. Et donc il a présenté la gamine physiquement, il a tout de suite trouvé qu'elle correspondait, le côté un peu innocent, mais tu vois. Et donc il lui demande si elle connaît l'exorciste. Linda Blair lui explique qu'elle a lu le bouquin.
Wow.
Et il lui demande de quoi ça parle. Il dit c'est une fille qui se fait prendre par des gens méchants, et puis elle fait des choses méchantes, elle tue, elle défenestre un mec et elle se masturbe. Alors Friedkin lui dit, alors tout ça c'est lui qui le raconte dans son bouquin, alors c'est le storytelling à la Friedkin, mais
ouais.
Et elle lui dit, bah, tu sais ce que c'est que la masturbation? Et lui, elle dit, ah bah oui, c'est it's jacking off. Elle lui dit,
Évitez d'avoir ce genre de conversation avec des enfants de 12 ans. Ah, mais tu sais ce que c'est que la masturbation?
Et Fletkin lui demande si elle fait ça, et elle lui répond, pas toi. C'est ce que Fletkin raconte. Hein. Moi, je. Voilà. Bref, en tout cas, quoi que soit la vérité sur cette audition, ça trahit quand même une forme de maturité de l'actrice qui a forcément joué en sa faveur pour l'acquisition du rôle. Et effectivement, c'est une performance, on en parlait en sortant, de dévotion. Je pense, en toute sincérité, je suis vraiment le dernier à dire c'était mieux avant, on ferait plus ça aujourd'hui, mais le fait est que sa performance et ce qu'elle accomplit en tant qu'enfant, je pense qu'on aurait du mal à le refaire, ne serait-ce que pour différentes lois de protection de l'enfance, parce que c'est quand même un peu chaud, quoi.
Oui, voilà. C'est ça. Et je trouve que effectivement, c'est encore plus plombé par le fait que le film abandonne ses personnages possédés en cours de route dans Dévotion. Mais tu sens pas cette gradation vers l'horreur au fur et à mesure, même s'ils tentent des trucs. Mais tu vois, même par exemple, on en parlait et je trouve ça assez. Assez génial, mais les tests médicaux dans Dévotion sont peut-être parmi ce qu'il y a de plus réussi, en fait, dans le film, mine de rien. En plus, ils font un truc que faisait pas l'original, qui est comme ils ne savent pas où elles ont été, ils leur font des prélèvements vaginaux au cas où pour voir si elles auraient été violées. Et la scène est assez dure à regarder, et je trouve qu'il y a un truc vraiment dérangeant à ce moment-là. Et tu te dis, là, il y a un truc intéressant, parce qu'en plus, ça rajoute cette métaphore du viol, qui est aussi forcément l'original, et que t'as pas, pour le coup, dans L'Exorciste. Mais dans L'Exorciste, c'est ces scènes-là qui sont les pires, en fait, enfin, pour avoir encore revu le film. Et beaucoup de gens en parlent souvent, mais les scènes de tests médicaux avec Regan, mais c'est les trucs les plus choquants du film. Et t'as notamment ce truc là de cette prise de, enfin, ce truc où ils lui font une piqûre et il y a du sang qui gicle sur les côtés, donc évidemment un truc faux, tu vois, mais entre elle qui vraiment joue parfaitement la douleur de la séquence, c'est vraiment, même Blatty le dit souvent en disant, de tout L'Exorciste, c'est la scène que je peux pas regarder, en fait, vraiment, c'est un plan qui le traumatise. Et t'as vraiment des moments où tu te mets à sa place à elle, c'est tellement glacial dans le filmage. Friedkin disait d'ailleurs qu'il avait fait tout en lumière naturelle pour avoir vraiment ce truc des néon, lumières de, de néon d'hôpital absolument horrible. La scène, elle te met mais super mal, quoi. Et je trouve que c'est aussi parce que elle le joue tellement bien, cette douleur horrible à ce moment du personnage, que tu l'acceptes totalement.
Oui, parce que c'est, alors effectivement, c'est filmé de manière extrêmement froide, dans une atmosphère très très froide, et en fait t'as le montage qui corrèle un peu les deux, en fait le gros plan sur son visage à elle qui souffre, et tout à coup ce plan large où effectivement t'as l'espèce de gerbe de sang qui atterrit sur le drap et tout, vraiment en mode c'est inéluctable, c'est comme ça, en fait elle a le contrôle d'absolument rien, mais c'est son corps et sa souffrance en fait qui sont disséqués sur la table, alors que c'est pas grand chose, c'est une coupure, c'est une piqûre, mais il y a quelque chose effectivement de dérangeant, et je pense que ça préfigure complètement, tu le disais, en gros ça préfigure les scènes de possession d'après, en fait c'est vraiment une continuation.
D'autant qu'à ce moment-là du film, il y a encore une ambiguïté sur ses symptômes, là où, bon, on va pas revenir 200 fois sur Dévotion, mais forcément la comparaison lui fait mal. Pour moi, le gros problème de cette scène dans Dévotion, c'est que les gamines sont déjà des monstres, enfin elles se regardent comme si elles allaient massacrer tout l'hôpital, alors que dans L'Exorciste, l'original, on s'est déjà un peu attaché en fait à Linda Blair, et on ressent un peu sa douleur, on ressent pas sa douleur, mais on crince des dents.
Mais, et d'ailleurs dans L'Exorciste original, tu vois, la métaphore de violence sexuelle, comme tu le disais, elle est présente tout du long, à travers les scènes de violence médicale et à travers les scènes d'exorcisme, alors qu'elle est plus évidente dans Dévotion, justement dans la violence médicale, mais par contre il me semble qu'après, dans la possession, on oublie tout sous-texte sexuel, il me semble. Alors que c'est quand même vraiment au cœur de la thématique au départ.
Bah, c'est plus dans Dévotion, tu veux dire ? Ah oui, dans Dévotion, je trouve le truc beaucoup plus sur la question du dilemme cornélien, de elles sont deux, il n'y en a qu'une qui pourrait survivre selon les décisions qui sont prises, et puis elles sont juste... En fait, je pense déjà qu'il y a la sale idée de s'être dit, ça se passe sur une chaise et pas dans un lit. Contrairement à l'original, je pense que ça fait aussi la différence, mine de rien. Ouais. Parce que t'as évidemment ce truc-là de aller allonger, t'es dans le lieu ultime de l'intimité, a priori, autant pour dormir que pour faire d'autres choses. Donc, il y a une ambiguïté, effectivement, là-dedans chez Friedkin, que du coup, le Dévotion perd totalement. Mais parce qu'il joue vachement plus sur le côté folklore, ils ont tracé un cercle, ils sont tous autour, là, en Avengers des chrétiens autour d'eux, là, donc, autour d'elle. Donc, pour moi, ça perd effectivement de la force visuelle, enfin de ce que le storytelling visuel raconte dans L'Exorciste original, totalement.
Dans la catégorie également actrice ou acteur peu célèbre, On a Ellen Burstyn quand même qui joue la mère, donc bah, un peu le personnage principal finalement, parce que c'est elle qui a le plus de temps d'écran. Pareil, rôle proposé à pas mal d'actrices, Audrey Hepburn aurait dû le faire.
Wow. J'aurais voulu voir ça. Dans une dimension parallèle, je veux bien voir Audrey Hepburn jouer.
Voilà, ils l'ont proposé à Jane Fonda qui a envoyé un télégramme qui disait « capitalistic piece of shit », enfin du Jane Fonda quoi. Et finalement, c'est Ellen Burstyn qui convainc Friedkin de lui laisser le rôle, encore une fois contre l'avis du studio, notamment de son patron qui s'appelait à l'époque Ted Ashley, et qui lui dit genre, mais dans une réunion, mais au-dessus de mon corps mort, tu ne casteras pas quelqu'un qui n'a même jamais eu de rôle principal dans un film dans un truc pareil. Et là, encore une fois, je cite Friedkin dans ses incroyables mémoires, il s'allonge par terre, il lui dit vas-y, passe-moi dessus. Et Friedkin donc bah l'enjambe hein, et lui il attrape la jambe et fait voilà ce qui va se passer si tu me passes dessus, je viendrai te hanter si tu fais ça. Mais finalement il arrive quand même à, enfin il est forte tête hein, quand même le Friedkin à l'époque. Bon voilà, il a eu un Oscar après,
toujours
donc,
toujours ouais, non, mais... toute sa vie
ouais. Après encore une fois, comme le père Carras, c'est une actrice qui correspond pas mal à son rôle, parce qu'à l'époque elle vit aussi seule avec un enfant, enfin un enfant, son fils je crois, qui était, je sais plus, c'était encore un enfant à l'époque, mais bref, il y a un peu la même construction, étant donné qu'elle est pas une actrice très célèbre, elle a pas une super villa, enfin elle vit aussi parmi nous quoi. Ouais, et voilà, elle aussi elle a un rapport à la religion, elle a été élevée dans un milieu assez catholique, etc. Et donc forcément bah là il y a il y a une part d'elle qui se met dans le rôle et ça transparaît vachement à l'écran. Et d'ailleurs, elle a toujours eu une grande tendresse pour ce rôle-là toute sa vie, au point de refuser toutes les suites jusqu'au
chèque de dévotion.
Jusqu'au dévotion.
À quoi
vraiment...
ça servait de tout refuser pour accepter ça maintenant?
Bah, elle l'explique et en vrai, c'est assez dingue qu'en pleine promo, il l'autorise, c'est dire à quel point son contrat devait être à son avantage, il l'autorise à raconter cette histoire. C'est-à-dire que pour David Gordon Green, au début, elle a dit non et qu'ensuite ils ont discuté, qu'il a incorporé leur discussion dans le script et qu'elle a été très touchée. Mais la réalité, selon elle, qui le dit au Hollywood Reporter, c'est qu'ils sont allés la voir avec un chèque, elle a fait non. Ils sont allés la voir avec un chèque x2. Elle a fait oh putain. Elle dit je crois j'ai l'impression que le diable me demande son prix, en gros un truc comme ça, donc bon, lourd de sens. Et finalement elle s'est dit, alors qu'elle trouvait Gordon Green plutôt sympathique, effectivement ils ont beaucoup discuté, que cet argent pourrait aller à un master auquel elle participait pour des jeunes acteurs talentueux, et donc sa condition a été de verser un énorme cachet pour la classe en fait, pour des études, et donc c'est son acte charitable, mais ça en dit long sur son envie d'être dans une suite de l'Exorciste.
Oui, ça en dit long sur l'envie du film de l'avoir dans le film aussi hein, ouais. Puisque
ça en dit long aussi
là,
sur le côté carcan si du Legacy Quall où il le fallait à tout prix quitte à
à l'évacuer très vite. Mais c'est ça en fait, parce que tu payes de ouf pour avoir des acteurs, mais en fait pour avoir ce qu'ils incarnent quelques secondes à l'écran, puis en fait tu les évacues parce que tu sais pas comment les intégrer dans l'histoire.
Oui, d'autant que bon, Ellen Burstyn, elle est incroyable dans l'Exorciste, mais c'est pas Laurie Strode quoi, tu vois, c'est pas.
C'est pas
une battante icône absolue.
Bah oui, c'est ça. Et en fait, moi c'est ce que j'aime d'ailleurs, tu vois, dans l'Exorciste, c'est comment il construit ce truc du aller actrice, mais tu sens que c'est un personnage qui se cherche pas mal, et moi j'aime beaucoup, tu vois, ce que construit Friedkin de manière très simple, de elle qui remonte la rue après son tournage pour rentrer chez elle, ou elle croise des nonnes, mais tu sais pas trop ce que ça veut dire à ce moment-là, des gamins costumés. Donc il y a un truc très innocent à ce moment-là. Et je trouve que parfois l'Exorciste est même à son meilleur dans les scènes qui sont pas d'horreur. Et notamment, moi, ce plan que je trouve absolument merveilleux dans le film, où tu sens bien qu'elle a plus vraiment de contact avec son ex-mari, avec le père de Regan, et que le père de Regan ne l'appelle pas pour son anniversaire, et que t'as ce travelling qui recule où elle est dans la chambre et elle s'énerve au téléphone pour essayer d'avoir le mec au téléphone, et que la caméra recule dans le couloir, et que tu as Regan derrière sa porte qui entend toute la conversation, et tu sens qu'il est triste aussi. Il y a ce truc très beau à ce moment-là de l'abandon, et qui est autant l'abandon humain et d'une structure familiale déjà éclatée, donc qui est aussi là et un truc très beau, tu vois, pour l'Amérique de l'époque où les sitcoms ne te parlent que de familles fantasmées, de familles bourgeoises absolument parfaites. Là, on te montre aussi la réalité du divorce, des familles brisées. Et en même temps, derrière, évidemment, de l'abandon potentiel de Dieu qu'il y a derrière ça, que je trouve assez fantastique. Mais il faut peut-être aussi parler d'une autre personne qui est plus dans l'ombre, mais qui est tout aussi importante, qui est Mercedes McCambridge, donc actrice émérite de plein de films auparavant, et que Friedkin, sur lequel Friedkin a une illumination quand il s'agissait de trouver la personne pour faire la voix du démon Pazuzu quand Reagan est vraiment en pleine transformation.
Oui, parce que du coup, là, c'est vraiment... c'est une actrice qui incarne presque à parts égales le démon avec Linda Blair, parce que la voix est tellement importante, et en fait, c'est vrai qu'elle double vraiment toutes ses répliques dès lors que Reagan est possédé. Mmh. Et d'ailleurs, dans les images du documentaire, on voit un petit peu les scènes avant que Reagan... que Linda Blair soit doublée. C'est vrai que le rendu est évidemment pas du tout le même, hein, forcément. Et du coup, c'est une actrice. Il l'avait vue dans, je sais plus dans quel film il avait flashé sur elle, mais en tout cas, il disait que ça faisait longtemps qu'il avait pas spécialement repensé à elle ou revu des films avec elle, et que tout à coup, en se disant bon, je cherche une voix un petit peu androgyne qui soit aussi bien masculine que féminine, il a repensé à elle et à sa voix. Et du coup, c'est là qu'elle a sorti le grand jeu, on va dire. Elle a dit « Ok, je le fais, mais à condition que... » Enfin, en tout cas, elle a dit « Je te préviens, pour faire une voix de démon, il va falloir que j'avale des douzaines de crues pendant des semaines. »
Des œufs crus, qu'elle prenne de l'alcool pour chauffer sa voix, sauf qu'elle a été alcoolique, elle était sobre depuis un long moment.
Ouais.
Donc, gros challenge. Et surtout qu'elle se remette à bien cloper aussi. Elle se faisait des paquets de clopes en masse à ce moment-là. Et donc, elle demandait qu'il y ait des prêtres autour d'elle, notamment pour gérer, parce que elle devait prendre de l'alcool alors qu'elle n'était pas censée. Ouais. Quoi, donc il fallait qu'elle soit entourée au mieux pour ce rôle-là.
Et puis qu'elle voulait qu'elle soit ligotée sur une chaise, genre accroupie sur une chaise. Les bras accrochés dans le dos pour, du coup, je suppose que ça ouvre un peu sa cage thoracique, mais que ça transforme encore plus sa voix. Et du coup, les prêtres, au départ, je me disais, mais en fait, elle les veut pour se mettre dans l'ambiance ou quoi. Et en fait, non, je crois que c'est parce qu'elle avait besoin de se dire qu'il y avait une présence religieuse à côté d'elle pour la consoler après qu'elle ait dit des horreurs pareilles. Voilà, donc ça donne ce résultat assez terrifiant, en fait, de la voix de Reagan possédée, qui est un peu une trouvaille, quoi.
Et du coup, tu faisais référence à un documentaire qui est effectivement donc L'Exorciste selon William Friedkin, qui est un documentaire qui a été fait par Alexandre O'Philippe, réalisateur français d'ailleurs, qui a fait pas mal de films sur le cinéma et qui avait croisé la route de Friedkin, qui avait... Friedkin étant sans doute un peu égotique là-dessus, s'est dit « Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un documentaire sur moi. » et c'est lui qui a demandé à O'Philippe de faire un truc. Mais du coup, O'Philippe s'est dit « Je ne veux pas faire un truc général sur Friedkin parce que ça serait trop vaste et ça partirait trop en sucette. » Et c'est comme il adore L'Exorciste, il lui a dit « Si on faisait un truc juste sur L'Exorciste, et où en fait, tu as quand même globalement Friedkin qui te parle de L'Exorciste et de la création du film. » Et c'est assez
passionnant. Ouais.
C'est assez passionnant.
Film qui d'ailleurs s'appelait à l'origine « Leap of Faith ».
Oui.
Donc...
Saut de la foi.
Saut de la foi.
Ouais. Voilà. Et qui est exactement comme ça que Friedkin le considère. Et moi, c'est aussi ça que j'adore. C'est que, encore une fois, on va le répéter beaucoup, mais ce storytelling de Friedkin, en même temps, tu sens qu'il y a une part de vérité là-dedans, dans le sens où lui te dit qu'il voulait effectivement pas des symboles trop évidents ou trop explicites derrière, et qu'il a beaucoup fonctionné à l'instinct. Ce qui, je pense, est quand même un truc qui regroupe beaucoup de grands cinéastes quand tu fais un truc qui... Tu sens quelle est la bonne idée, tu sens quel est le bon plan à faire, tu sens quelle est la bonne séquence à tourner. Et je trouve que L'Exorciste a ce truc-là, en fait, assez brillant, de tellement de trucs. Tu vois, je parlais de cette séquence-là de Chris McNeil qui rentre, où lui s'est dit « Oui, je voulais qu'il y ait des petits indices dans ce côté enquête où il y a des gamins costumés, parce que tu sens que ça annonce déjà effectivement la transformation de Reagan, mais finalement, c'est assez vague comme truc. Enfin, tu peux interpréter un peu tout ce que tu veux par-dessus. Tu as cette espèce de petit ralenti sur les nonnes qui passent avec, le vent qui passe dans leurs vêtements, et t'as ce truc un peu étrange où tu dis il y a quelque chose de bizarre, d'un peu intangible qui se passe, mais c'est assez difficilement déchiffrable et descriptible, en fait, et je pense que ça joue vraiment de l'impact aussi de L'Exorciste là-dessus.
Ah, complètement, mais alors juste, je me permets de faire un petit retour en arrière avant qu'on ferme définitivement peut-être la question du casting. Juste Linda Blair, c'est vrai que Friedkin, du coup, n'aborde pas le fait que... Enfin, je veux dire, il est un peu frileux sur la question du fait que ça a pu être difficile aussi, malgré tout, pour Linda Blair, parce que c'est vrai qu'elle fait partie de ces actrices dont la carrière, en fait, a été complètement vampirisée par cette espèce de premier succès, on va dire. Et c'est vrai qu'elle dit quand même qu'à cette époque, en tant que petite fille, elle avait un petit peu envie de jouer des princesses et des... Voilà, enfin, des... Pas ça, quoi. Et que du coup, ça a été raté, hein.
Tu veux jouer à la dinette? Non, jouer au démon à la place.
Et même si elle a connu pas mal de succès après L'Exorciste, surtout qu'elle elle a vite grandi, elle a vite fait femme, en fait, tu vois, parce que ne serait-ce que L'Exorciste 2, du coup, c'est 4 ans après, je crois, et au final, elle est déjà... elle joue déjà une adulte, en gros, dans le film.
Ça.
Mais bon, après, elle a eu quelques déboires, on va dire, avec la justice et la drogue, il me semble, et bon, ça a un peu mis fin à sa carrière, mais c'est vrai que du coup, elle a vraiment suivi le parcours un peu triste de ses enfants stars, qui, en fait, après une performance comme ça, qui, en plus, a un côté sexualisant et un côté bah, violent, tout simplement, ont du mal à s'en relever. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours un happy ending pour ces personnes-là, quoi.
C'est vrai, c'est un peu la trajectoire un peu classique, malheureusement, oui. Dans ce genre de cas. Oui, et Pazuzu, qui est un peu... Il y a une scène de trinité, parce
oui,
qu'il
a très mal vécu, Pazuzu, franchement.
Le pauvre. Non, non, mais il y a un peu une trinité derrière lui, parce qu'il y a aussi Elaine Dietz, qui est rarement crédité, mais qui joue le visage de Pazuzu qu'on voit, le blanc là avec les yeux noirs.
Ah oui, d'accord.
Et qui, il me semble, mais je ne suis pas sûr, mais il me semble, a doublé Regan sur certaines des scènes les plus dures,
oui.
Parce qu'elle était un peu plus âgée. Et il me semble que cette actrice aussi a mal vécu la chose, pas parce que c'était difficile, enfin ça l'était évidemment, mais parce que elle pense ne pas avoir été assez reconnue pour sa performance. Et je crois qu'il y a une époque, elle avait carrément... dit je sais plus où que en gros la performance de Linda Blair lui devait quasiment tout et le studio a fait hop 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 on se calme, mais ouais là je pense qu'on la voit un peu plus que ce qu'on peut que juste ses petites apparitions,
oui.
Et ouais. Donc elle a quand même rendons à César ce qui est à César,
oui,
elle a quand même un impact sur cette performance qui est une sorte de mélange de plein de trucs en fait.
Oui.
Et ça finalement ça amène justement un peu sur ce sur quoi je voulais revenir, tu vois, dans les instincts de Friedkin où il faisait plein de tests sur plein de choses et notamment du coup avec Dick Smith des tests de maquillage pour voir s'il voulait donner effectivement un visage particulier à Pazuzu. Donc ils ont fait ces tests là sur fond noir avec juste ce visage blanc absolument monstrueux qui ressort dans toute sa simplicité d'ailleurs, finalement c'est super
simple. Oui, parce
simple
qu'il est pas si élaboré, pas si sophistiqué comme maquillage,
c'est
quoi. C'est
vraiment ouais. les traits ressortent et t'as surtout un peu de rouge sous les yeux pour bien faire sortir
le côté
de
la même manière
bleu.
Que la statue qu'il représente en Irak est une sorte de statue très dégrossie, enfin c'est pas le grand truc gothique super fin et hyper flippant, c'est un truc inquiétant mais très simple,
c'est ça. Et au final ils se sont dit bon, on part pas sur cette direction là ils voulaient vraiment que le maquillage reflète la dégradation du corps, mais via quelque chose, et notamment via une forme de violence physique que tu t'infliges à toi-même. Donc évidemment, avec cette idée des cicatrices, des violences que tu t'infligerais à toi-même, ce qui est d'autant plus tragique, je trouve, quand tu vois effectivement la déliquescence du personnage de Regan. Mais au final, effectivement, Friedkin en arrive à ce choix super fort de se dire, mais en fait ces images là pendant le montage on pourrait les utiliser autrement et on peut les caler en espèce d'images subliminales, bon qui le sont pas vraiment hein, parce que c'est quand même plusieurs frames à chaque fois, mais de caler ça au milieu du montage et d'amener cette idée finalement qui est peut-être la plus belle de l'Exorciste, qu'en fait le mal est déjà partout et qu'en fait le mal il est même pas répandu juste à Georgetown ou dans cette idée que c'est réparti, c'est il est entre les photogrammes, il est dans le film, il est entre les images, et c'est à toi aussi à ce moment-là de le capter. Alors après, il en abusera, on en reparlera sur le director's cut, mais l'idée de base de ça est d'utiliser en fait des trucs qui étaient purement du test, et je trouve assez fantastique. Et tu parlais de l'Irak. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder là-dessus parce que l'intro en Irak de l'Exorciste, je pense que c'est pour moi une des plus grandes scènes à la fois d'horreur et d'intro, parce que en fait, c'en est pas une. Et c'est ça qui est fantastique, et ça nous ramène aussi à Dévotion, parce que la scène d'intro de l'Exorciste, c'est du coup le père Merrin qui est en Irak, et découvre via des fouilles archéologiques sur lesquelles il travaille, justement, des représentations du démon Pazuzu, et c'est tout en fait. Et dans le bouquin de Blatty, c'est déjà le cas. C'est vraiment une scène très bizarre de lui qui déambule dans les rues, et il se passe un peu rien en fait, jusqu'au moment où il voit la statue, et il a un mauvais pressentiment. Mais en fait, c'est tout ce que te donnera la scène. Et à la base, personne dans le studio, chez Warner ou d'autres réalisateurs qui étaient envisagés sur le projet, ne voulait de cette scène. Personne ne voulait la caler. Et c'est Friedkin qui a dit, mais si, elle est essentielle parce que justement, on comprend pas le lien. Et ça te montre que non seulement, malgré la distance géographique, le démon est déjà répandu. Et surtout, faut faire comprendre justement qu'il y a ce sentiment de mal qui est absolument partout. Et il fait un choix très fort, c'est qu'il change la vitesse d'obturateur. C'est tout bête, mais du coup, ça te donne cet effet un peu bizarre où l'image est moins fluide. T'es censé voir plus parce que t'as moins de flou de mouvement, mais surtout, t'as une saccade de l'image. Donc, tu ressens plus le côté voilà, un peu intercalé des images entre elles. Et avec juste, du coup, cette idée de Merrin qui déambule dans un bazar, qui voit des forgerons en train de faire des trucs, et puis surtout cette calèche qui lui passe devant à un moment donné, et ces deux chiens qui se battent. Donc t'as cette sensation, je trouve, vraiment de bizarrerie, qui au début, tu peux te dire, c'est peut-être l'exotisme de la situation pour nous occidentaux qui provoque ça aussi, mais je trouve ça très fort qu'en fait, il n'y ait pas de but narratif à cette scène-là. Contrairement à Dévotion, qui construit le trauma originel de ces personnages là-dessus, là, c'est juste de te dire... Non, le mal, il est déjà là, il est déjà dans le film et il va se répandre encore plus et tu peux pas encore totalement estimer ce que c'est. Et pour moi, c'est là que l'exorciste est vraiment à son meilleur.
Le mal est déjà là, et en plus, il est là depuis toujours, parce que finalement, c'est ce qui est représenté avec le fait qu'il trouve cette petite tête de Pazuzu sous des couches de terre. C'est vraiment l'idée que le mal est ancré là depuis des millénaires, en fait, et qu'en fait, on n'y peut rien. Il est là, et point barre, il va falloir faire avec, quoi. Et oui, c'est une scène qui l'avait vraiment terrifié à la lecture du bouquin, parce que du coup, c'est déjà dans le bouquin aussi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il a insisté, parce que même sans savoir, enfin, peut-être qu'on en reparlera, mais effectivement, comme tu le disais un peu en intro, Friedkin adore fonctionner à l'instinct, et c'est vrai que là, en fait, il s'est vraiment basé sur son ressenti à la lecture pour se faire confiance et se dire il faut que ce soit dans le film aussi pour réussir à reproduire ce sentiment, même s'il savait que ça allait déconcerter les spectateurs. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se demandent mais pourquoi cette intro en Irak. Et pourtant, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un de mes plans préférés dans le film, je pense, le moment où du coup Meryn se retrouve face à la statue, où ils sont mis sur un pied d'égalité. Et c'est pareil, c'est extrêmement simple, mais avec le soleil rougeoyant qui apparaît entre les deux après, là, ouais, t'as un sentiment de malaise ou de vertige qui est créé par ça et qui est le terreau parfait, on va dire, pour l'histoire qui arrive.
Surtout qu'il retrouve la petite médaille de Saint-Joseph au milieu des fouilles, alors que ça n'a aucun sens d'un point de vue temporel, en fait, qu'il trouve quelque chose aussi récent dans l'histoire du christianisme par rapport à ses croyances beaucoup plus païennes. Et lui-même a dit, on l'a mis là parce qu'on s'est dit que ça faisait un raccord intéressant avec la médaille que Karras a plus tard. Mais voilà, tu vois, il l'a fait par pur instinct. Et en fait, je trouve que derrière, ça te provoque à ce moment-là ce truc de dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là pour que ces choses-là se connectent, en fait ?»
C'est intéressant que tu utilises cette formule de « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» parce qu'en fait, c'est intéressant aussi de parler de la ville dans laquelle ça a été tourné, du coup, parce que Friedkin, dans le fameux documentaire, insiste un peu là-dessus, le fait qu'ils ont tourné dans une ville qui, des millénaires et des millénaires avant, enfin en tout cas avant la naissance de Jésus-Christ, avait été victime d'une attaque par les Sassaniens, et où en fait, tout le monde avait été décapité, et les statues avaient été décapitées aussi. Donc ils sont arrivés dans cette ville où en fait, il y avait des statues millénaires qui se trouvaient là, qui étaient décapitées, et du coup, ils les ont utilisées dans le décor pour séparer, créer cette espèce d'ambiance de genre tu fais pas gaffe parce que c'est des vieilles statues, mais tu vois, mais il y a quelque chose en toi qui dit il y a un truc de pas net, tu vois, il y a un truc de pas normal qui participe à l'étrangeté de tout ça.
Je trouve que j'ai revu le film hier, du coup, et voilà, et en fait tu le vois, tu sais, quand tu le vois pour la 700 fois, la 600e fois, la partie avec l'exorcisme de Regan et tout, tu la connais par cœur, tu vois, il y a plus cette sidération, et la scène la plus flippante, ça devient vraiment l'intro, en fait, vraiment. Ouais. le jeu de Sido, surtout le jeu de Von Sido. Ouais, le moment où en fait il a ce trou là avec juste la petite statue, il sort et ensuite il déambule, et il fait que déambuler pendant 5 minutes, et tu vois à sa tête qu'il a compris quelque chose que tu comprendras jamais. Et c'est en fait, c'est tout le rapport de Friedkin à la fois qui est dans ce plan là c'est pour ça que je trouve que c'est essentiel également, et qui est en fait, c'est vertigineux, quoi. C'est une terreur vertigineuse que beaucoup de films de Bourgeois par la suite vont essayer de recapter, mais très peu vont réussir à le faire aussi bien.
Bah, je trouve surtout que, tu vois, ça amène, pareil, autre formule assez galvaudée quand tu parles de cinéma d'horreur, mais cette fameuse inquiétante étrangeté freudienne, donc cette idée du familier qui devient inquiétant parce que tu sens qu'il y a quelque chose de transformé, il y a quelque chose de bizarre. Et je trouve qu'en fait, L'Exorciste, c'est le film ultime sur ça. Il y a très peu de films qui arrivent à capter, et notamment via cette intro, cette sensation de quelque chose, voilà, de commun, de quelque chose que tu es censé connaître, d'intime, qui est censé être rassurant et qui soudainement prend quelque chose de monstrueux, et qui évidemment se transmet aussi via le personnage de Regan et de cette maison censée être elle aussi rassurante, et qui petit à petit porte aussi en elle les stigmates, voilà, de cette transformation avec le plafond qui se craquait, la porte et tout ça, et la lumière qui change. Et je trouve que c'est pour ça que l'intro en est d'autant plus essentielle. Elle te pose aussi ce truc-là, en fait, de te dire c'est une force intangible avant tout. Et tu pourras pas vraiment le comprendre. Et même si on va le visualiser, le verbaliser un peu en cours de route, ça reste, voilà, tout ça reste très évanescent.
Mais alors justement, pour revenir là-dessus, parce que j'ai envie maintenant de sortir toutes les anecdotes du documentaire, mais Friedkin parle justement de la manière dont il filme l'extérieur de la maison en s'inspirant d'une anecdote qu'il a vécue lui à l'époque où il était gamin et où il allait au lycée. Et pour aller au lycée, en fait, il passait devant une maison dans laquelle avait eu lieu un meurtre absolument horrible d'une gamine qui avait été enlevée puis tuée, genre des morceaux de son corps avaient été retrouvés partout dans la rue, enfin genre un truc atroce. Et que du coup, tous les jours, il devait passer devant ça et du coup de sentir qu'il y avait cette espèce d'atmosphère changer du coup et empreinte, alors ça se passe peut-être que dans la tête des gens, tu vois, mais empreinte d'un certain mal qui tout à coup pose une lumière tellement malaisante sur des choses de ton quotidien, quoi. Ouais. Et c'est effectivement tout ce qui se passe dans les scènes où, comme tu le décrivais, Ellen Burstyn juste marche dans la rue et où tu sens un poids étrange qui te met mal à l'aise, et bah c'est la manière dont ils filment la maison tout du long, quoi, et c'est assez passionnant.
Et l'escalier, le fameux escalier à la sortie de leur maison, et qui va être évidemment central, enfin qui amène la mort du père Karras. Et maintenant, l'escalier, il est cultissime et les gens font limite du pèlerinage là-bas. Mais justement, c'est vrai que quand ils te le filment dans le documentaire par rapport à ce que tu dis là,
bah tu sens que cet escalier maintenant il est empreint aussi d'une énergie, ça reste de la fiction hein, mais il est empreint de cette énergie là en fait. Et d'ailleurs les suites, enfin certaines des suites y reviendront aussi et le mettront en avant en te montrant bien voilà ce côté c'est l'escalier de l'exorciste.
Ouais, c'est pas pour rien que certains des plans qui sont le plus restés dans la culture populaire de l'exorciste sont des plans en apparence très anodins, comme évidemment le célèbre plan avec le bagage devant
l'arrivée
enfin, de quoi je veux parler bien sûr.
L'affiche de
l'affiche
mais qui se base sur un tableau de Magritte. L'Empire des Lumières, avec ce côté surréaliste que Friedkin voulait pas mal de cette rue avec l'éclairage de nuit qui apparaît alors que malgré tout il fait encore jour, et là où bon lui il retravaille différemment mais avec cette idée que de toute façon la lumière de la chambre de Regan qui se projette sur le père Mérine, et c'est vrai qu'au final quand t'as vu le plan 10 000 fois force tu le remarques même plus, mais en fait la lumière est tellement artificielle et fumée mais amène ce côté surréaliste qui finalement est très puissant et qui t'amorce toute la suite.
Je pense en toute sincérité que le choix de cette affiche a largement participé au succès des du film, elle est parfaite. Enfin, c'est-à-dire que quand tu n'as vraiment jamais vu d'exorcisme au cinéma, voir juste un mec debout comme ça devant une maison pavillonnaire américaine, tout ce qu'il y a de plus classique, avec sa petite valise qui veut dire il va se passer quelque chose, ça donne vraiment envie de se confronter à ce mal-là. C'est vraiment un choix impressionnant.
Mais d'ailleurs, l'inspiration de Friedkin, elle est très très picturale. Enfin, en fait, il s'inspire d'un nombre de peintres absolument incroyable. En fait, c'est vrai que quand tu regardes le documentaire et tu le vois en parler, en fait, tu dis mais oui, c'est évident. Évidemment qu'il pense ses éclairages d'après Rembrandt, il y a Monet aussi dans les influences qu'il cite, enfin, en tout cas énormément de peintres, et en fait il se nourrit beaucoup beaucoup de peinture, et c'est pas pour rien du coup si le film effectivement a tant de textures dans l'image et tant d'éclairages travaillés, enfin, c'est passionnant. C'est passionnant.
De toute façon, même techniquement, le film c'était aussi les années 70. T'as ce truc où tu sens que le film est un peu à la lisière d'être un gros film de studio et avec une énergie un peu de nouvelle Hollywood. Et encore aujourd'hui, moi, je suis assez bluffé, en particulier la photo de Owen Roseman, qui a fait un boulot de fou sur le film. Et ils ont développé des techniques pour pouvoir tourner l'exorciste. Donc, tu parlais notamment de cette fameuse chambre de Regan qui devient de plus en plus froide en cours de route dans le film jusqu'au moment de l'exorcisme. Et juste parce qu'ils voulaient qu'il y ait cette captation de, via les paroles et notamment les incantations, tout ça, de la buée faite évidemment par le souffle. Et donc, ils ont créé une espèce de chambre froide qu'il fallait refroidir en permanence pendant le tournage. Donc, la pauvre Linda Blair avait très froid, elle, dans son pyjama. Mais,
avec toute quantité de fluide sur sa chemise en plus.
Ouais, donc, c'est ça. Donc, enfin, des trucs assez déments. On parlait du maquillage. Et il y a un truc qu'il faut évoquer parce que c'est. Le Steadicam n'existait pas encore à ce moment-là. Et donc, quand il faisait les scènes dans les escaliers, ou notamment toutes les paniques pour aller au deuxième étage et ouvrir la chambre de Regan, ils avaient été contraints, pour pouvoir faire des trucs assez fluides quand même dans l'escalier, de créer une sorte de balançoire sur lequel tu mettais l'opérateur, qui était connecté à des câbles et une poulie au plafond, pour pouvoir lui permettre d'être dans la cage de l'escalier et suivre les personnages en train de monter à plusieurs reprises et à des rythmes différents, tu vois, plus ou moins paniqués. Et un truc horrible à faire parce qu'en plus, il fallait du coup mettre des lumières au plafond et s'adapter pour pas qu'il y ait l'ombre de l'opérateur qui se projette sur le mur. Enfin, c'est une torture à faire. Et tu le vois dans les making-of et les trucs comme ça, mais c'est juste passionnant qu'ils aient développé ces trucs-là. Pas grand-chose parce que le Steadicam est arrivé très peu de temps après. Donc, ils sont un peu fait chier, mais.
Dommage.
Mais oui, c'est ça. Dommage.
On voit un peu des images de dispositifs dans le making-of qu'il y a sur le Blu-ray. Effectivement, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel, un plan qui remonte du rez-de-chaussée vers l'étage, alors qu'à l'époque, c'était quand même une sacrée prouesse technique. Et il y a aussi, je crois qu'ils ont designé un rig spécial pour la caméra, juste pour le plan. Où je sais plus si c'est un des prêtres ou un des psychologues, tu sais, à un moment il tombe en arrière et la caméra le suit dans sa chute. Et je crois qu'ils ont designé un rig de caméra juste pour ce plan qui dure genre une seconde et demie. et c'est fou parce que le film paraît assez. Enfin, il est magistralement mis en scène, mais il paraît pas être extrêmement
stylisé.
Mais en fait, c'est plein d'idées comme ça qui viennent s'accumuler et qui en font une sorte de machine parfaite.
C'est marrant parce que du coup ça peut nous amener à parler peut-être du Director's Cut de 2000 qui est pour le coup un... Donc évidemment l'exorciste ayant été, comme on le disait, le succès immense que ça a été et plus tard la tentative de suite dont on parlera plus tard. Finalement Warner s'est dit bon, on a qu'à ressortir l'exorciste finalement, ça sera plus simple. Et c'est vrai que surtout Friedkin avait laissé pas mal de trucs sur le banc de montage et des images parfois qui étaient a priori plus trop en état d'être réutilisées, mais du coup ils se sont dit
essayons de faire un director's cut qui est sorti du coup en 2000, qui a été un carton monstrueux parce qu'à l'époque ça a été plus de 100 millions de dollars juste de recettes supplémentaires, ce qui n'arrivait jamais pour une ressortie comme ça. Et en plus le DVD était en émergence, donc ça a aidé aussi. Malheureusement d'ailleurs maintenant c'est plus ou moins la seule version de l'exercice que tu peux voir.
Oui, parce que moi j'arrive, enfin ma version le Blu-ray c'est le director's cut, et à la fois je voulais revoir du coup la version cinéma et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas.
C'est ça. Voilà. Et au fait finalement Friedkin lui-même te dira c'est la version ultime de l'exorciste. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Et je pense que ça c'est sujet à débat parce qu'il a rajouté pas mal de trucs qui en fait pour moi polluent un peu l'expérience du film. Notamment, on en parlait, mais des images subliminales qui remet en masse et des fois dans des effets vraiment balourds qui, je trouve, enlèvent un peu de la finesse de la première fois où tu te dis « Est-ce que j'ai vraiment vu ce que je viens de voir ?» Là, c'est tellement évident que tu te dis « Ouais, bof, ok. » Et surtout, il y a une scène qui est assez importante et qui, en fait, justifie pour lui le director's cut, qui est une scène qu'il avait virée du montage parce que plusieurs producteurs lui avaient conseillé de le faire et pour le coup, il avait écouté, pour une fois. C'est une scène au milieu de l'exorcisme, en fait, où donc les deux prêtres, donc Karras et Merrin, prennent une pause, entre guillemets, et ils sont tous les deux dans un coin de l'escalier. Et Karras dit, mais en fait, pose la question, mais pourquoi cette petite fille, pourquoi cet enfant innocente, pourquoi le mal s'attaque à cette personne-là? Et où Merrin répond, c'est pour nous faire désespérer, justement, c'est pour nous renvoyer aussi à ce qu'est l'humanité en général, à quel point tout peut être sali, à quel point cette transformation inévitable de notre corps et de notre esprit attaque absolument tout le monde. Et en fait, pour Peter Blatty, c'était la thèse du bouquin et c'était pour lui la scène majeure du livre, et il en a voulu à Friedkin de l'avoir enlevé. Sauf qu'en fait moi je trouve que c'est déjà Friedkin le dit lui-même, en fait il dit bah en fait c'était dans le film, enfin c'est oui, ça transparaît dans tout le film.
Et pour lui c'est explicite, quelque chose qui est déjà dit dans le film.
C'est ça, tu vois, donc pourquoi le mettre là en fait. Et mais bon, il s'est dit ok, elle est quand même pas mal la scène, en plus c'est vrai qu'elle est plutôt bien mise en scène, donc il l'a remise dans le montage. Mais moi je trouve qu'elle enlève de cette ambiguïté là en fait, de ce truc absolument merveilleux que t'as dans le film original, que t'as pas tellement besoin d'avoir explicité là.
Dans le making of du director's cut, il dit bien qu'il l'a rajouté par il dit en grandissant j'étais moins orgueilleux de
oui,
sa
oui.
part. Et du coup il dit oui, je dois beaucoup à Blatty, qui est quand même celui qui est venu le voir avec son histoire, etc., qui l'a vachement secondé. Et il dit en hommage, enfin
pour lui faire plaisir,
pour lui faire plaisir, voilà, il a remis la scène. Mais oui, effectivement lui n'est pas d'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que d'un côté je suis d'accord avec le fait que la scène explicite quelque chose qui est magistralement implicite dans le film, mais d'un autre côté j'aime beaucoup l'idée d'une sorte de pause, parce que Max von Sydow, mine de rien, n'a pas un si grand temps d'écran passé, passé le moment où il arrive très tard dans le récit. Et en fait il arrive et direct il est en mode pro, quoi, il est en mode filme-moi ma soutane, mon openit et on attaque. Et en fait c'est cool d'avoir un moment de flottement comme ça entre les séances, où tu peux les voir discuter un peu comme des êtres humains, alors que juste avant ils se transforment en une sorte d'émissaire, du combattant de la foi et tout. Et je trouvais ça pas mal, mais c'est vrai que le dialogue en lui-même est un peu appuie un peu trop la chose. Bon, c'est un débat sans fin, comme je pense que la scène la plus célèbre qu'ils ont gardée dans le nouveau montage, c'est évidemment la scène de la descente d'escalier en araignée.
Yes.
Qu'ils n'ont pas gardé à l'origine, non pas pour des questions de rythme ou etc., mais tout simplement parce qu'on voyait les câbles et que le studio du coup a demandé à l'enlever et que Friedkin a acquiescé. Et du coup forcément quand ils l'ont ressorti en 2010, ils ont pu les effacer assez facilement et garder cette scène qui, c'est assez amusant, est devenue mine de rien assez célèbre depuis, hein. Elle
ouais,
a été parodiée un nombre de fois incalculable, on l'a mis dans notre vidéo d'ailleurs sur le film, où il y a aussi d'ailleurs une apparition subliminale de Pazuzu, si vous regardez bien, casé par notre monteur Mathias. Mais ouais, en revoyant, je trouve qu'elle arrive un peu trop tôt dans le récit,
ouais.
Parce que sa fonction est clairement de nous surprendre en nous sortant de la chambre où on pense que le mal se contient, entre guillemets. Donc si elle arrivait plus tard, elle serait beaucoup plus effrayante, mais ça reste un moment de trouille qui personnellement m'avait assez marqué quand je l'avais vu ce montage là à l'époque.
Ouais, moi j'adore cette image, j'adore juste cette scène là, mais effectivement je trouve que elle débarque comme un cheveu sur la soupe et que ça n'a pas l'effet du coup de d'angoisse voulue ou de surprise. Et en fait c'est un peu bizarre parce que ce mouvement qu'elle fait de descendre l'escalier sur le dos complètement retourné, c'est tellement plus extrême que ce qu'elle fait physiquement par la suite, tu vois, que bon.
Ouais,
je sais pas, je trouve ça un peu mal utilisé, mais l'image en elle-même, elle est ouf.
En tout cas, ça nous confirme quand même à quel point finalement l'exorciste reste un peu un one shot de génie qui justement pouvait pas totalement être, pouvait pas vraiment donner lieu à des suites, Et même si on va revenir sur les suites et sur ce qu'elle représente aussi, je trouve qu'il y a quand même ce truc intéressant de se dire, est-ce que finalement on peut parler d'un véritable héritier de l'exorciste ? J'ai pas vraiment l'impression, parce que le film d'exorcisme est devenu un sous-genre en lui-même, mais finalement pour jamais arriver à transcender le chef-d'œuvre de Friedkin.
Pour même jamais réussir à, ne serait-ce que réussir à être sympathique à un moment. Quoi. c'est dingue, c'est un sous-genre intégralement raté, c'est...
Ouais,
rare,
ouais.
C'est rare.
Ça, ouais, parce que déjà, du coup, même moi, à l'original, par moments, j'ai du mal. C'est vrai que les films d'exorcisme, c'est très vite chiant, en fait. Et on l'évoquait un peu quand on discutait avec Geoffrey de la saga Conjuring. C'est vrai que le concept de l'exorcisme, ça pose quand même vraiment problème d'un point de vue narratif, parce que c'est une situation dans laquelle, en fait, tu peux pas établir de règles simples, et qu'en fait, les films jouent toujours là-dessus. En fait, tu sais pas jusqu'où peut aller un démon. Parfois, ils décident de tuer quelqu'un, un personnage secondaire qui est pas important, en un claquement de doigts, puis les personnages principaux, comme d'habitude, bah, ils les tuent pas, enfin, ou ils les fait mariner un temps pas possible. Tu connais pas les enjeux, les règles sont pas définies, à partir de là, tu fais ce que tu veux, et du coup, bah, tu t'emmerdes, en fait. Oui. Et donc, en fait, voilà, l'exorciste arrive justement en reculant énormément la scène de l'exorcisme, mais en fait, en faisant un film, effectivement, comme vous le disiez, un film d'enquête et un film qui parle de plein d'autres choses. Du coup, comme l'exorcisme en lui-même est très contenu sur une petite partie du récit, on s'en sort à peu près. Mais c'est pas le cas des autres. Et en fait, moi, les films que je trouve les plus réussis sur l'exorcisme, c'est aussi les films qui essayent de faire autre chose. Donc, moi, j'ai une tendresse pour l'exorcisme d'Emily Rose, qui est en fait un film de procès, et pour le dernier exorcisme, un peu, qui est une sorte de found footage, qui, bah, comme le genre l'oblige, se termine mal, et qui est aussi un questionnement sur la foi, beaucoup plus cynique, on va dire, en tout cas beaucoup plus froid, comme l'aurait imaginé Friedkin. Donc, voilà. Mais à part ça, je trouve que c'est surtout, effectivement, un genre assez catastrophique, quoi.
Bah, surtout qu'en fait, ça tombe vite dans le nanar, parce que si tu décorrélères les insanités proférées par Linda Blair de toute la mythologie qu'il y a derrière, de tout ce qu'amène Friedkin avant ça, c'est ridicule, c'est débile, vraiment, les films à base de « Je baisse ta mère en enfer », c'est n'importe quoi, c'est vraiment ridicule, et je trouve que dans les films... bon, on en a longuement parlé, mais dans les films du Conjuringverse, c'est un peu catastrophique, toute cette partie-là. En plus, forcément, il faut passer le niveau supérieur en termes de spectacle. Alors, on entre dans des délires, alors que toute la fascination qui est autour du film de Friedkin est dans la progression. Très lente, ça dure 2 heures quand même, de cet exorcisme. Et on arrive comme, bon, voilà, je trouve que c'est un des gros défauts du dernier exorcisme, où direct on arrive et c'est la fête du slip, quoi. C'est n'importe quoi. Je sais plus ce qui se passe, mais ça devient des Mikado, les mecs. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. À quel moment tu t'attends à ce que la personne survive ? Alors certes, dans le Friedkin, elle tourne sa tête, mais quand même, tu vois, genre c'est...
ouais, pour moi, enfin, du coup, tu vois, c'est bien, je pense, pour conclure, parce que ça nous amène au fait que c'est le véritable problème de dévotion, en fait. Tu vois, qu'en plus, il essaye tellement de recopier l'original et de l'assumer comme modèle et construction de son héritage qu'au final, je trouve que c'est là qu'il se plante le plus. Alors que, finalement, c'est ça qui est plus intéressant, les suites de l'exorciste, aussi perfectibles puissent-elles être, tente à chaque fois de faire autre chose, en fait. Et je pense que c'est là que c'est le plus intéressant. Mais en tout cas, bon, ça fait du bien de parler de l'exorciste. Ça m'a permis d'évacuer un peu la merde de David Gordon Green, donc c'était cool. Merci, mes enfants. Je vous absous de vos péchés. Mais en même temps, bah, voilà, ça m'embête un peu qu'on n'ait pas parlé des suites, parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants à dire dessus. Donc, ce que je vous propose, c'est que, comme d'habitude, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on reprend la semaine prochaine pour voir si ça nous donne d'autres idées d'articles ou de vidéos. Et d'ailleurs, bah, c'est bien dommage parce que ce petit confessionnal cinéphile ferait, je pense, un super podcast. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'Écran Large se décide à sauter le pas. Et il faudrait qu'on rappelle à nos auditeurs de s'abonner, de commenter et de mettre 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute préférée. Et on pourra au passage les remercier de nous soutenir parce que ça reste le plus important.
Un podcast où on pourra dire qu'il y a un vrai successeur à l'exorciste, qui est The Strangers, le film coréen, voilà, qui est absolument génial et qui se développe des thématiques communes à celles de Friedkin. Voilà.
Amen.